Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Dose d'économie.
On s'occupe de vos finances personnelles, on s'occupe de vous donner les infos économiques dans le cadre de ce direct. Nicolas Dose est de nouveau parmi nous. Bonjour cher Nicolas.
Bonjour.
Il est temps de faire le point sur les effets économiques de l'attaque iranienne contre Israël qui sont déjà quelque part visibles. La première conséquence évidemment concerne le pétrole. On est passé au-dessus des 90 dollars le baril. Là on est un tout petit peu en dessous.
Voilà, c'est
89.
Ça se stabilise, mais on voit bien qu'il y a eu en fait un effet immédiat sur le baril de pétrole à partir du moment où il y avait cette angoisse d'une attaque iranienne. Et là on est repassé au-dessus des 90 dollars le baril. On a même touché les 92 dollars le baril. Là maintenant, certains imaginent qu'on pourra aller vers les 100 dollars le baril, parce qu'il y a un vrai risque. Mmh. Autant pronostiquer un chiffre précis pour le baril de pétrole, comme beaucoup s'amusent à le faire très régulièrement, ça me semble un peu hasardeux. Autant là, on a effectivement un vrai risque. On a eu aussi un phénomène sur le gaz naturel liquéfié. Mmh. L'indice de référence à Rotterdam a pris tout de même 7%. C'était vendredi. Alors jusqu'ici, les tensions au Proche-Orient n'avaient pas eu d'effet notable sur les prix de l'énergie. Mais d'ailleurs, c'est même presque une non-réaction des marchés qui a un peu surpris certains experts qui justement se hasardaient à anticiper une forte hausse des prix du pétrole notamment. Mais on avait toujours dit que l'élément déterminant, c'était la position de l'Iran. À partir du moment où l'Iran rentre dans l'histoire, l'histoire n'est plus la même. Et c'est bien ce qui se produit depuis maintenant quelques heures.
L'Iran qui change d'attitude, qui change de stratégie. Et ça, ça concerne, ça implique, ça a des impacts sur ce qu'on peut appeler un choc énergétique. Le risque d'un recul brutal de l'offre, c'est ça qui va tirer les prix à la hausse.
C'est exactement le risque. Le risque, alors je dis bien le risque parce qu'on n'y est pas.
Ouais.
On n'y est pas. Mais on a le risque d'un choc d'offres. Dans la mesure où le trafic maritime est déjà très pénalisé au niveau de la mer Rouge à cause des rebelles du Yémen et que les Iraniens ont clairement menacé de bloquer, de fermer le détroit d'Hormuz. Le détroit d'Hormuz, vous avez 20% de la consommation mondiale de pétrole quotidienne qui passe par là, et vous avez un quart de la consommation mondiale de gaz naturel liquéfié qui passe par là. Vous fermez le détroit d'Hormuz, vous avez l'assurance d'avoir un choc d'offres. Et puis il y a aussi le fait que parmi les productions israéliennes, il y a des productions de gaz, et qu'on se rend compte qu'avec les événements récents, elles pourraient se retrouver fragilisées. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut y voir une sorte de prémisse ou de signal d'alerte, mais les autorités iraniennes ont saisi un porte-conteneur italo-suisse de l'armateur MSC. C'était samedi, et menace désormais de fermer le détroit d'Hormuz. Ça veut dire que là, si on fait ça, on a un choc d'offres avéré, et en face, on a une demande de pétrole qui est un peu moins dynamique en termes de progression qu'en 2023, puisque la progression elle sera inférieure à 1,5 million de barils le jour, mais on est quand même sur une demande qui augmente de 1,5 million de barils le jour, d'après les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Et puis on peut ajouter un dernier élément dans l'équation, qui est un mauvais hasard de calendrier, mais c'est que ce risque de choc d'offres arrive au moment de la driving season aux États-Unis. C'est toute cette période de jours fériés, de période de vacances, où les Américains roulent très sensiblement davantage et donc consomment davantage de carburant. Et enfin, on pourrait dire que ce chiffre de 90 dollars, c'est un chiffre qui est plutôt la cible souhaitée par l'OPEP. Donc c'est un chiffre dans lequel les principaux pays producteurs se retrouvent plutôt aujourd'hui. Mais voilà, le détroit d'Hormuz n'est pas fermé. Du jour où il est fermé, là, la donne change radicalement.
Voilà, l'Iran peut fermer à tout moment le détroit d'Hormuz. C'est la menace formulée par un des hauts gradés des gardiens de la Révolution.
Absolument, oui.
Un mot, si on revient à nous, pardon pour cet égoïsme économique, si on revient à nous, petits Français, dans notre petit pays, est-ce que les prix à la pompe vont suivre si les prix du pétrole flambent? Rappelez-nous
absolument
le mécanisme.
Le mécanisme de transmission met à peu près une quinzaine de jours, et on a coutume de dire que, il faut que la tendance soit lourde pour quand même qu'on voit réellement les prix modifiés sensiblement à la pompe. Généralement, quand vous mettez $1 de plus sur le baril, de manière durable, vous avez 1 centime de plus à la pompe, avec un délai de transmission qui est inférieur à 1 mois, qui est plutôt de la quinzaine de jours. Donc ça veut dire que derrière ça, vous avez une hausse des prix de l'énergie. On sait à quel point notre économie est ultra sensible au prix de l'énergie, parce que nous sommes totalement dépendants de l'étranger, en tout cas pour ce qui est des énergies fossiles, que ce soit le gaz ou le pétrole. Donc premier effet très négatif sur le pouvoir d'achat est évident. Mais deuxième effet très négatif, moins palpable pour l'opinion, c'est que si on a un choc d'offre sur les prix de l'énergie, et donc un choc énergétique,
ouais,
on peut se retrouver avec un phénomène qui réduirait à néant les tentatives de politique de lutte contre l'inflation, voire, si ça s'installait dans la durée, remettre en cause les espoirs d'une promesse baisse de taux de la part de la BCE à compter du début du mois de juin. Tout le monde maintenant a inscrit dans son esprit l'idée que le 6 juin, c'était le coup d'envoi du desserrement de la politique monétaire en Europe. Si le choc énergétique se confirme, à ce moment-là, on pourra avoir un pic d'inflation qui ferait que la BCE ne serait plus en capacité, même si l'arme des taux n'est pas forcément la plus adéquate pour lutter contre une pénurie de barils de pétrole ou une pénurie de mètres cubes de gaz. La BCE, compte tenu de son mandat, pourrait se retrouver dans l'obligation de renoncer à son desserrement de politique monétaire.
On est passé, comme dirait notre confrère Anthony Bondin, de zone bourse la semaine dernière, de l'ambiance, l'inflation n'est plus un problème et les taux d'intérêt vont baisser, à, au secours, l'inflation revient et l'assouplissement monétaire n'est pas, on tenait pour acquis, ne l'est pas.
Ouais.
Très bien résumé. Merci beaucoup, Nicolas. À retrouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes. Cette séquence est également disponible sur YouTube si vous voulez participer au débat, à la discussion. Voilà, on monitore au fil des minutes ce qui se passe et comment ça nous concerne en tant qu'investisseurs particuliers dans cette émission. Merci, Nicolas. À demain pour une autre dose d'économie.